Oublions jamais de placer les choses en perspective.
Ça aurait dû être une grande célébration.
C'est quand même gros ce qu'on évoque là.
Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé.
Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté.
Luc, salut.
Oui, bonjour Juliette.
Bon, t'es exceptionnellement avec nous aujourd'hui à cause des tristes événements qui se sont produits en fin de semaine aux États-Unis. Trois fusillades, bon, la plus importante, je crois, étant à Buffalo, jeune homme de 18 ans qui a fait un manifeste de 180 pages qui croyait à la théorie du grand remplacement. Tu nous expliqueras un peu c'est quoi. Mais je voulais que tu sois là parce que j'ai lu ton statut Facebook quand ça s'est passé. Bon, et puis tu disais, je sais pas si je vais écrire là-dessus, je suis découragée, je sais pas s'il y a encore quelque chose à dire, puis je me suis dit, mais c'est tellement ça, on sait plus quoi dire, puis c'est comme s'il y avait plus rien à dire.
Écoute, puis je l'ai reproduit un petit peu dans le texte qui est sorti, qui est paru dans le journal aux alentours de midi. Écoute, je fais de la recherche où j'enseigne l'histoire américaine, puis je commente l'actualité américaine, mais écoute, j'ai passé le quart de siècle d'expérience, de commentaires, de recherche. Et c'est un des phénomènes qui me laisse presque toujours les bras ballants à côté du corps ou encore la mâchoire décrochée. C'est-à-dire que on reproduit sans cesse les mêmes phénomènes et on ne modifie pas la recette ou l'approche. Même pire, tu vois, hier, quand tu as lu le statut Facebook, en gros, ce que je disais, c'est je suis en train de discuter avec des amis d'un phénomène, ce qui s'est passé à Buffalo. Le temps que j'en discute sur les réseaux sociaux, il y en a deux autres, une fusillade puis une autre tuerie, la Californie, donc Houston. Puis c'est sans parler d'événements ou d'incidents qui sont mineurs comparativement à Buffalo, mais qui se sont déroulés pendant la fin de semaine.
Oui.
Et les statistiques sont claires. Depuis deux ans, le nombre de tueries a explosé. 2019, on a un peu plus de 400 tueries pour l'année aux États-Unis.
Donc plus en que 2020, de jours de l'année.
La barre des... Pardon?
Plus que de jours de l'année.
Oui, et on ne parle que des tueries. Les tueries, c'est quand il y a quatre morts dans une fusillade ou plus.
Ouf.
Donc, il y a plein d'autres incidents qu'on rapporte pas. On a même atteint autour de 38 000 personnes là, qui sont décédées du recours ou de l'utilisation des armes à feu. Mais ne serait-ce que des tueries, là, on est passé de 417 à 680 à la fin de 2021. Cette année, il y a eu 200 tueries, en fait 202. On ajoute la Californie. Il y a eu 202 tueries depuis le début de l'année. Le mois de mai n'est même pas terminé.
On explique donc, ça comment, cette hausse-là? C'est la radicalisation, c'est la haine en ligne? Parce que là, je disais, en ce qui a trait à Buffalo, le jeune homme avec son manifeste qui croyait au grand remplacement. C'est quoi ça, le grand remplacement?
Bon, c'est ça. Ça s'accompagne d'un autre phénomène. On pourra élargir un peu aussi, là, parce qu'il y a de nombreux indicateurs à observer là-dedans. Mais ce qui va de pair, là, ce qui évolue en parallèle avec les tueries, ce sont les crimes haineux. Et ce qu'on appelle le grand remplacement, ça fait un certain temps déjà que ça circule. Ça a d'abord circulé outre-mer, ça a été très populaire et ça l'est encore malheureusement en France. C'est-à-dire qu'on ouvre les portes toutes grandes à l'immigration. Et dans le cas des États-Unis, c'est pour remplacer cette majorité blanche qui se voit les hommes blancs américains, ceux qu'on a appelés les « angry white men » pendant longtemps, là, eux, ils savent que d'ici 2040-2050, les blancs vont être minoritaires aux États-Unis. Il y aura plus de 50% de représentants des diverses minorités. Et dans les discours les plus acharnés, puis même dans les discours politiques, il y en a certains qui disent que c'est l'approche du Parti démocrate. Regardez, on veut noyer le pays d'immigrants de sorte que le Parti républicain, mais les plus conservateurs, disparaissent ou aient moins d'impact. Lui, il a cru à ça. Tous les républicains ne sont pas comme ça. Tous les sites conservateurs ne disent pas ça. Mais les plus extrêmes, les plus polarisés, radicalisés, affirment ce genre de choses. Et tu vois, ça a eu des échos, ça, pour ce jeune tueur. Mais il n'est pas seul. C'est ce qui est encore plus dramatique.
Oui.
Il ne faudrait pas penser que Buffalo est un incident isolé. Il y en a eu d'autres. On a ouvert le feu sur une synagogue. On a ouvert le feu à Texas El Paso. Quand on parle de crimes haineux, là, moi, c'est ce que je relayais dans l'article ce midi. Je suis même allé faire un tour virtuellement, bien entendu, au département de la justice aux États-Unis. Il y a une section complète réservée aux crimes haineux. Ça donne le tournis juste de regarder la page d'accueil et ce qu'on appelle les hate crime news, hein, les nouvelles des crimes haineux. Et on se dit, mais on gère tout ça. Et comment réagit-on aux États-Unis? C'est complexe parce que là-dedans, il y a des écarts de pauvreté, la richesse, il y a la violence, la culture des armes à feu, les services sociaux. Mais une des choses, moi, qui me sidère à chaque fois, c'est que jamais on ne va dans la direction de rendre les armes à feu moins accessibles.
Non, mais c'est dans la Constitution. Oui. On revient toujours à ça, puis le lobby des armes à feu. Puis même après Sandy Hook, là, je veux dire, où on disait là, de leur côté, ouais, voilà, là, des gens adeptes des armes, que ça prenait des gentils armés pour lutter contre les pas gentils armés. Autrement dit, armons les profs dans les écoles.
Ah, écoute, c'était moi, j'avais fait une démonstration à mes étudiants en classe de tout le matériel qu'on rendait disponible aux écoles pour protéger les enfants. On n'enlève pas les armes. On a des matelas de gymnase qui deviennent hein, des gilets pare-balles, des sacs d'école, les cahiers. Mais donc, toutes les mesures étaient faites ou mises en place, pensées pour ne pas qu'on ait à légiférer sur les armes à feu. Mais ça devient une escalade qui est absolument sidérante. Qui est presque anecdotique aujourd'hui, mais je tenais à te donner l'exemple aussi. La Cour suprême, on le sait parce qu'on en a discuté tous les deux, là, puis ça a défrayé la chronique un peu partout. La Cour suprême va se prononcer fin juin, normalement, autour de la question de l'avortement. Presque en même temps, il y a un autre jugement qui va mériter notre attention. En tout cas, j'espère que nos auditeurs ou les passionnés d'actualité politique vont surveiller ça. La Cour suprême va se prononcer sur la réglementation des armes à feu de l'État de New York. Et c'est un des États où il y a une réglementation assez forte. Et tu n'as pas le droit dans l'État de New York de circuler avec une arme à moins de te sentir menacé puis d'être capable de justifier que tu as besoin d'une arme ou que les craintes ou les menaces qui pèsent sur toi soient suffisamment grandes que tu aies besoin de porter une arme. Donc on dit ben vous sortez pas d'une arme, vous sortez pas de chez vous avec une arme. Ce qu'on pense maintenant, puis tous les avis vont dans la même direction, c'est que la Cour suprême va enlever ça. Et non seulement à New York, tu vas avoir le droit de circuler avec ton arme à feu, tu aurais le droit de la dissimuler. Donc, tu nous imagines tous les deux, écoute, on se rencontre à New York, j'essaie de t'inviter au resto. On est peut-être assis à côté de quelqu'un qui a de gens qui à la table à côté ont des armes dissimulées. Je suis un maniaque de baseball, j'essaie d'aller voir les Yankees dans le métro en m'en allant ou dans les estrades pendant le match. Il pourrait très bien y avoir quelqu'un avec une arme.
C'est ça, parce que quand il n'y a pas d'armes à feu, Luc, en circulation, il n'y a pas d'incident qui implique des armes à feu. Donc, c'est le nerf de la guerre sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Merci beaucoup.
Un grand plaisir, une bonne fin de journée.